Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. 2 mois plus tard, j'avais une paire de Nike, un ensemble Takini, une palette de maquillage Yves Rocher, 3 bandanas et le single de Ménélic. Damien tenait une branlée de 47 secondes sans éternuer, moi pareil, sans m'évanouir. Il aurait pu trouver des putes gratuites au collège, elles étaient nombreuses. Mais tout le monde a ses raisons de vouloir dépenser de l'argent. Grande couronne, c'est ça. La fin des années 90, le début des années 2000, c'est Ophélie Winter, Buffy contre les vampires et Alliance ethnique. Tennessee, notre héroïne, veut porter des marques, manger des marques, être remarquée. Bienvenue dans un roman d'un temps pas si lointain, en compagnie de son autrice, Salomé Kinner. C'est parti. Bienvenue pour cette rencontre.
Bonjour.
Pour cette rencontre avec Salomé Kinner, à l'occasion de la parution lors de cette rentrée littéraire de Grande Couronne chez Christian Bourgois éditeur. Comme je le disais un petit peu en amont, à chaque fois la rentrée littéraire, c'est faire des choix. En tout cas pour nous, si vous êtes habitués de la librairie, vous savez que on ne lit pas tout, nous n'avons pas tout, nous ne lisons que des autrices et des histoires qui nous correspondent donc dans les féminismes. Et donc nous avons adoré Grande Couronne et j'étais ravie de pouvoir donner mes coups de cœur aux lectrices. Donc bienvenue Salomé.
Merci.
Merci d'être venue jusqu'à nous dans ton grand parcours national et international, on peut le dire. Donc après ces quelques mois de parution, comment ça va avec Grande Couronne? Grande question.
Ça va très bien, non? C'est un magnifique accueil pour le livre et évidemment je suis hyper heureuse. L'écriture c'est vraiment un exercice très solitaire. Un premier roman, on est guidé, je crois, par le sentiment de l'échec en permanence. Enfin voilà, on écrit sans savoir ce que ça va donner. On écrit, je crois, plus par nécessité, par un rapport de nécessité à la création que par vraiment une stratégie éditoriale. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. C'était une histoire que j'avais besoin de raconter, c'était une pratique d'écriture qui me faisait du bien, mais la possibilité de la parution, elle est arrivée très 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 tard en fait, enfin elle est vraiment arrivée après tout le reste, et du coup bah voilà, de voir qu'il est accueilli comme ça, c'est juste c'est magnifique quoi.
Est-ce que ça a été un accueil générationnel? Parce que, évidemment, je suis de cette génération, puisqu'on est né la même année, et ça a été une lecture... Enfin, même si les thématiques, je ne peux pas me les approprier, pour autant, en fait, il y a énormément de choses qui ont fait redondance, qui m'ont fait des rappels, en fait, de qui nous étions, en fait, dans ces années-là. Et est-ce que ça a été généralement comme ça, ou même des personnes qui sont nées beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt auraient quand même trouvé
ça? Eh bien, je pensais que ça allait être un roman de niche et qu'il allait toucher uniquement les personnes de cette génération, plus en plus avec un facteur social, parce que voilà, c'est quand même très circonscrit à un lieu, à une classe sociale, voilà. Et en fait, pas du tout. J'ai eu des lecteurs et des lectrices vraiment de horizons, d'âge très variés. J'ai une femme de 90 ans qui m'a dit qu'elle l'avait dévoré. Et je pense que même si les événements dans le livre, ils sont très particuliers, j'ai l'impression qu'en fait, le sentiment de l'adolescence, il est vraiment universel chez les garçons, chez les filles, chez chez tout le monde. Enfin voilà, c'est vraiment une période transitionnelle entre l'enfance, donc on est encore avec des rêves d'enfant, avec des réactions d'enfant, avec des sensibilités d'enfant. Et en même temps, on commence à se confronter à des réalités d'adultes, on commence à regarder ses parents différemment. Je crois que le cocon de sécurité qu'est la famille se fissure un peu, puisqu'on regarde, quand il l'est sur le papier de base, hein, mais on commence à voir ses parents un peu différemment, on comprend un peu les failles de sa propre famille. Et puis évidemment, bah, la puberté, des désirs qui nous assaillent et dont on ne sait pas très bien quoi faire, l'impression de pas désirer les bonnes choses, et puis la transformation du corps. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui nous est donné à tous de vivre. Enfin, en tout cas, tant qu'on est là pour en parler, c'est qu'on l'a vécu. Et donc voilà, et je crois que ça a permis au roman de toucher un public plus large.
Oui, et puis tu as une façon de présenter en fait ton personnage principal direct. Alors c'était assez drôle parce que en relisant hier soir des parties du livre, je me disais mais en fait on est limite en tant que lectrice un peu pris en otage des pensées du personnage principal, c'est-à-dire qu'on est dans sa tête. Enfin moi j'ai eu vraiment l'impression d'être dans le chemin de pensée en fait de cette jeune fille et que de ce fait toute sa colère, toutes ses changements d'endroit, ses pensées négatives, ses désirs soudains, ses dégoûts très forts, tout est passé en fait comme si dans ma machine à laver interne on va dire. Et il y a quelque chose de très direct, de très fort. Et je me dis mais en fait même si on n'a pas été cette jeune fille-là, tes mots sont tellement directs et forts, il y a quelque chose de pam, 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 on va pas te lâcher, toi, lectrice, tu restes avec moi jusqu'au bout, on est happé par le livre. Enfin, j'ai l'impression, en fait, qu'on le ligne comme ça d'une traite en rythme avec elle, avec son cheminement, qu'on a l'impression qu'en plus, c'est sur une période assez courte, alors qu'en me relisant, en le relisant, le petit lapsus, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça dure beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Dans ma tête, c'était genre un été, quelque chose comme ça, mais non, c'est plus long, puisqu'on la rencontre en quatrième et qu'on la redécouvre en troisième. Donc,
En seconde même, on la quitte en seconde.
On la quitte en seconde. Ouais. Là, j'ai carrément loupé des étapes. Donc, c'était vraiment très, très long, en fait. Et cette construction de la langue, toi qui es journaliste, est-ce que c'est un style que tu affectionnes particulièrement, même dans ton écriture de journaliste, ou ça a vraiment été une forme, par rapport à ce personnage-là, de te dire des phrases concises, des choses directes, des moments plus intimes et donc plus construits, ou enfin, comment ton rythme s'est créé dans l'écriture ?
Bah, c'est une super bonne question. Je me l'étais pas tellement posée en lien avec le journalisme, mais c'est vrai qu'en journalisme, on est toujours en train d'essayer de faire rentrer un maximum de trucs dans un minimum de place. Particulièrement en plus à l'époque d'Internet où le texte est devenu l'ennemi de tout le reste. Donc c'est surtout pas plus de 140 signes et pas plus de 3 minutes et puis pas plus de. Donc on est tout le temps en train de condenser, c'est vrai. Et puis après aussi la capacité d'attention. Je me souviens que j'avais été très marquée par, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Bref, la série. Mmh. Et j'avais été très marquée par le système d'écriture, en fait, qui était presque des... Comment on appelle ça en trois... je suis un, donc je suis ça. C'est un nom.
Syllogisme.
Voilà, un syllogisme.
Bingo.
Merci. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite, et puis moi-même, je consomme beaucoup aussi, enfin un peu, pas beaucoup, mais un peu de séries. Donc très vite, j'étais aussi dans des formes de dramaturgie qui étaient rapides, efficaces. Et en fait, ce que tu dis, c'est aussi la première personne. Donc on rentre dans la tête du personnage parce que c'est écrit à la première personne. Et je me suis très vite dit, en fait, l'adolescence, c'est une expérience physique. Puisque c'est vraiment le corps qui se lance à la découverte du monde, de plein de manières différentes. C'est le corps qui prend son autonomie, c'est le corps qui se transforme, donc c'est vraiment une expérience du corps. Et j'avais envie que l'écriture, elle soit physique, qu'on soit dans la tête du personnage, vraiment qu'on ait son rythme, qu'on ait son souffle. Pour moi, c'est vraiment cette forme, elle permettait de parler du fond, et c'est-à-dire bah, comment est-ce qu'elle elle digère ce qui lui arrive, c'est par la vitesse, c'est en s'arrêtant pas trop sur ce qui se passe. Et voilà, et donc très vite, cette écriture-là, elle est venue... Parce que ça me permettait d'être la seule, en fait, qui permettait de rendre compte de son expérience. Et c'est clair qu'en journalisme, on est tout le temps en train de couper et de chercher d'enlever tout ce qui est en trop et d'essayer de garder que les images. Je crois que c'est Barthes dans son autobiographie qui dit je n'ai gardé que les images qui me sidèrent. Et en fait, il y avait un peu cette idée de rester sur la sidération, parce que pour moi, c'était aussi voilà, la découverte de la sexualité, la déception face aux parents ou la prise de conscience de qui sont nos parents. C'était une expérience de la sidération et j'avais envie de la trouver en écriture. Après, tout ça, c'est des choses qu'on se dit a posteriori.
Bien sûr.
Et moi, quand j'écrivais, j'essayais juste d'avoir une langue qui sonne juste. Et voilà, maintenant, c'est ce que je me dis aussi en discutant. Mais c'est des choses dont j'avais pas tellement conscience. La seule chose que j'avais conscience, c'était que je voulais que ce soit la voix d'une jeune fille, une parole féminine qui parlait de l'expérience féminine, mais sans les ellipses que on a d'habitude dans les récits, surtout liés à la sexualité féminine, qui moi m'avait beaucoup manqué dans mon apprentissage. Et je me suis dit voilà, comment t'aurais aimé parler, qu'est-ce que t'aurais aimé lire, qu'est-ce que t'aurais aimé entendre de tes copines, pourquoi est-ce qu'on parlait pas de la masturbation, c'était dégueulasse, pourquoi, plein de choses comme ça qui et donc c'était cette voix-là que je cherchais.
Mais d'autant que on est sur une génération à qui on parlait pas forcément de sexualité, ou en tout cas dans un axe très particulier, puisque c'était de la sexualité préventive. On nous mettait face aux risques, face aux grossesses non voulues, face aux maladies, mais que jamais, enfin c'était vraiment mais comme j'imagine encore beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, d'être soi-même à devoir découvrir comme ça ces expériences. Après, il faut quand même avouer que ton personnage, il va par la grande porte, puisque pour mettre un peu de teasing, donc à chaque fois, on essaye de parler plutôt des thématiques, mais pas trop de ce qui s'y passe vraiment, pour laisser au maximum la chance de découvrir le roman à ceux qui et celles qui ne l'auraient pas lu. Mais puisque c'est assez rapide dans le roman, tout va démarrer par dans une histoire de marque, tout simplement. Notre héroïne, elle est pas habillée comme elle le veut. Elle en a marre d'avoir les goûters plus faits maison de sa maman, et elle veut trouver des sous pour être exactement comme elle le veut. Parce que c'est vraiment cette image-là qui est assez forte, et notamment dans ce que tu dis sur la construction adolescente, c'est de dire « je veux exactement être comme je veux être ». Et les parents, ils doivent pas m'arrêter dans ce combat-là. Et donc elle va se retrouver, mais on se rend bien compte, en fait, elle l'a pas cherché du tout. Elle se retrouve à parler à Nelly, la fameuse Nelly, qui lui donne un rendez-vous sur le parking, et c'est là où son apprentissage sexuel commence, mais d'une manière quand même assez violente, en fait. Cette première scène, elle est... Enfin, ce qui est bien, c'est que directement, en fait, tu nous mets les pieds dedans, et qu'on sait qu'on va être dans quelque chose de cru, dans quelque chose de trash, de parfois dur à lire aussi, parce que le consentement, il est quand même bien dépassé. De commencer le roman comme ça, par cette une scène vraiment très, très dure, c'était prévu. Enfin, c'est-à-dire, parce que parfois, dans l'écriture, vous avez différentes phases, et après, c'est des sortes de montages où vous savez à peu près où vous voulez en venir, mais vous mélangez un petit peu les timings d'écriture, vous, les autrices. Mais est-ce que là, l'idée première était directement, en fait, cette scène de parking? De se dire, on va pas traîner, en fait, on va y aller.
Ouais, ça a toujours été le début du livre. C'était la première chose que j'ai écrite aussi, à peu près. Ça a toujours commencé comme ça. Je sais pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à écrire après avoir lu Paradoxia de Lydia Lunch. Et dans ce livre, donc Lydia Lunch, qui est une artiste musicienne performeuse, raconte ses années de prostitution à New York. Et en fait, c'était vraiment un travail qu'elle avait choisi. Bon, elle avait besoin d'argent, mais c'était vraiment une activité qu'elle avait choisie. Et en fait, elle racontait à la première personne, du point de vue de la travailleuse du sexe, et pas du point de vue du client, du législateur, qui sont généralement les récits par lesquels nous arrive la vie des travailleuses du sexe. Et en fait, au-delà du travail du sexe, parce que évidemment, le livre comporte cette idée-là, mais si on enlève le cadre de la prostitution, finalement, son initiation sexuelle, elle pourrait être, enfin moi j'en discute avec des amis, elle pourrait être celle qu'on est nombreuses à avoir vécue. Je parle beaucoup en ce moment d'un documentaire qui est diffusé sur Arte, qui s'appelle Préliminaire, qui est sur la sexualité des adolescentes. Et en fait, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est exactement ce qui se passe dans ce roman. Et donc l'idée de il faut que je passe à l'acte parce que toutes mes copines l'ont fait, donc il faut que je le fasse aussi. Comment est-ce qu'on le fait quand on habite, on peut pas aller chez toi, on peut pas aller chez moi, ben on va aller dans la voiture, ou on va aller sous le tunnel de la gare, ou on va aller dans les bois, ou on va aller, enfin là où on peut aller. En général, ça fait pas 15 ans qu'on connaît la personne et on pioche un peu ce qui veut bien nous rendre ce service. Et donc en fait, il y a plein d'éléments qui font qu'on peut très bien se retrouver sans rentrer dans le système dans lequel elle rentre. On peut très bien se retrouver, enfin moi j'en ai vécu des expériences semblables à différents niveaux, donc elles me paraissaient pas aussi spectaculaires. Et justement, c'était un peu pour faire le contrepoint de ok, bah en fait on passe notre adolescence à regarder des films romantiques avec justement cette ellipse où il y a une scène de courtoisie magnifique, on arrive près d'un lit et paf, on se réveille le lendemain matin et madame est pimpante. Et on suppose qu'entre les deux, ça a été une nuit de plaisir intense. Mais en fait, on nous dit pas ni comment, ni pourquoi. Et je trouvais qu'il manquait un pan d'information qui était quand même... Et comme tu dis, c'était de l'information préventive et pas... Et cette idée, je pense à un livre que vous devez avoir ici de Sarah Bramack, En quête de jouir. Voilà, qui raconte bien en fait comment les femmes ont redécouvert leur sexualité il y a quoi, 10 ans maximum. Enfin maximum, il y a toujours eu des personnes qui menaient leurs propres expériences, mais c'est quand même un phénomène assez récent de prêter un droit au plaisir et la sexualité épanouie aux femmes. Donc ça c'était vraiment le fond, et je me suis perdue parce que j'ai commencé avec Lydia Lunch. Oui, la scène initiale. L'autre chose, c'est que depuis 5-6 ans, on a des outils de vocabulaire qui sont mis à notre disposition. Tu parles du consentement, mais en 99, moi, j'avais jamais entendu, je sais pas vous, mais parler du consentement ou de la sororité ou même le viol conjugal, c'était des choses dont on n'en a pas parlé. Et quand vous n'avez pas de mots, et c'est bien pour ça que le langage est formidable, vous ne pouvez pas nommer les choses, donc vous ne pouvez pas les faire exister. Et en fait, depuis 5-6 ans, je me suis rendu compte qu'on revisite notre histoire sexuelle en général en se disant... Mais en fait, ce jour-là, il s'était passé ce truc, j'en sais rien, j'avais 15 ans, j'étais en colo, le moniteur avait 22 ans. Moi, je pensais que c'était un truc normal, mais en fait, quand j'y repense avec les outils qui m'ont été donnés aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas du tout normal. Et donc, en fait, je crois que cette scène inaugurale, peut-être pas exactement dans ces termes-là, mais quand vous parlez aujourd'hui autour de vous, on se rend compte, et là, je parle des femmes parce que c'est ce que je connais, on est énormément de femmes à avoir vécu à du harcèlement de rue jusqu'au viol, des situations d'agression, de violence sexuelle. Et donc, en fait, moi, elle me paraît pas si extraordinaire que ça. C'est vrai qu'elle est brutale parce que c'est la scène inaugurale du livre, mais c'est marrant, c'est que le premier livre que j'ai lu après avoir fini d'écrire, c'est L'Art de la Joie, que je voulais lire depuis très longtemps. Et en fait, c'est exactement la même scène dans le premier chapitre de L'Art de la Joie. Donc, je me suis dit, ah, en fait, c'est pas si... je suis pas complètement à côté. Et c'est drôle parce que je voulais le lire depuis des années. Et c'est vraiment en finissant mon manuscrit que j'ai lu ça. Et je me suis rendu compte que voilà, c'était...
Mais c'est vrai que là, dans le travail que tu proposes avec Grande Couronne, c'est aussi la question du regard. Et tu en as parlé... On en parlait juste avant sur le Festival des Créatives. Tu parlais de cette question aussi du regard dans les œuvres littéraires, de ce female gaze ou regard féminin. Alors la traduction française, elle est toujours un petit peu plus bancale que le terme en anglais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est une autre façon de raconter les femmes, les adolescentes. Et en effet, comme tu l'expliquais, ce rapport à la sexualité qui... En fait, sauf peut-être nouvelle génération ou personnes chanceuses d'avoir des familles qui leur transmettent les bonnes choses, les bons principes, les bons concepts, les bonnes explications. En fait, les jeunes femmes, en effet, créent leur sexualité sur des moments de douleur, de violence, parfois pour se forcer à être comme les autres, ou qu'elles soient forcées aussi sans le vouloir. Mais cet endroit-là de la sexualité, en fait, je pense qu'on est hyper, en effet, comme tu le disais, nombreuses à s'y référer, de se dire, mais nous, le plaisir, c'est après, en fait, qu'on a commencé à l'imaginer, en fait, à se dire, ah, mais en fait, les choses peuvent se vivre différemment. Et que c'est parce que, bon, si elle est en quatrième, elle doit avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment les premiers pas dans la sexualité. Mais elle le vit d'une manière, malgré tout, J'ai l'impression qu'en fait, on est dans un... Et tu dis le mot dans le livre bigou. Et c'est aussi, je l'utilise hyper souvent. Et à chaque fois, ça me rappelle... Enfin, voilà, mon adolescence. Mais bref. En fait, c'est une expérience de ce fait bigou. C'est-à-dire qu'on a son chaos intérieur, qu'on ressent très fort. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle extérieur. C'est-à-dire que cette jeune fille, elle n'a pas l'air d'être en panique à l'extérieur de, par rapport à ce qu'elle vit et de cette première scène, en effet, qui, pour nous, nous chamboule tout de suite, mais parce qu'on a tous les red flags de consentement, viol, agression, enfin, on se dit, il faut lui venir en l'aide, quoi. Sauf que, bah non, en fait, elle va juste essayer de rentrer chez elle comme elle peut, etc. Et les cauchemars vont un peu arriver aussi, mais ça ne va pas vraiment, en fait, déstabiliser sa vie, de son quotidien. Cette double narration-là, qui est quand même hyper fine, parce que plus, en fait, j'y réfléchissais après ma lecture hier, plus je me disais, mais c'est comme si on le voyait pas venir. C'est hyper doux, en fait. On nous propose deux personnages, en fait. Ça a été... Enfin, je suis toujours très curieuse de la façon dont vous écrivez, mais en même temps, j'ai l'impression que, bon, bah, est-ce qu'il y a vraiment des explications? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'était conscient de vouloir proposer un personnage, oui, bigou, comme ça, enfin, vraiment de se dire je vais réussir à projeter ce qu'il y a dans sa tête tout autant que son contrôle, parce qu'en fait, sa vie ne lui permet pas d'être dans le non-contrôle, en fait. Ça a dû demander quand même un sacré...
Je sais pas si c'était aussi clairement voulu. En tout cas, ce qui était conscient pour moi, c'était de vouloir rendre compte des contradictions qui nous traversent en permanence et du fait qu'on peut à la fois être une bonne sœur à la maison et une bonne fille et une bonne sœur pour ses frères et sœurs et être une ado ingérable dès qu'on sort dans la rue et faire des conneries et semer le trouble dans sa classe et après quand on est adulte, je crois qu'on continue, c'est-à-dire on peut à la fois aimer énormément quelqu'un et en même temps avoir envie qu'il meure. Enfin, je sais pas, c'est des choses moi, je trouve que on est tout le temps traversé de ces choses-là. Et puis, le chaos intérieur, comme tu dis bien, mais la façade, je crois que c'est quelque chose qu'on fait à tous les âges et tout le temps. Là, je lisais le dernier livre de Pénélope Bagieu, Les Strates, et il y a cette scène où elle est folle amoureuse d'un type de son école, et donc elle s'arrange pour aller à son concert. Et elle se pointe, donc elle lui téléphone, elle trouve son numéro de téléphone, elle le téléphone, elle dit voilà c'est quand le concert, et elle débarque, elle a quoi 14 ans, et elle se rend compte, donc elle va toute seule avec tous les amis de ce garçon qu'elle connaît pas du tout, et à chaque fois que quelqu'un vient lui dire et toi t'es qui, elle dit oh, bah personne, et en fait à l'intérieur d'elle elle est morte de honte parce qu'elle a rien à faire là et qu'elle est toute seule, et à l'extérieur elle joue à la fille cool parce que en fait elle a envie de passer pour une cool, et en fait je crois qu'on est ça me paraît pas complètement propre à elle, en fait, quoi. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui est quand même assez dont on fait tous l'expérience. Et après conscience, je sais pas, en tout cas ce dont j'avais conscience, c'est que je voulais montrer qu'on peut être vraiment accablé par les difficultés, les drames, les violences, et en fait garder en soi une espèce de pulsion de vie, en fait, de survie parfois, mais de vie, parce que je trouve qu'on est souvent dans un discours assez, parfois très de victimisation aussi des femmes, ce qui fait parfois avancer nos droits, mais qui aussi nous enferme dans des rôles un peu sacrificiels. Typiquement la sorcière, c'était quand même des femmes qu'on brûlait, c'était des martyrs. Et en fait, moi, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, notamment en voyageant, c'était des femmes qui avaient des vies... extrêmement rude. Bah moi j'ai un père russe, donc j'allais beaucoup en Union soviétique quand j'étais petite, et je voyais donc les amies de mon père, elles étaient profs d'anglais la journée, elles faisaient la plonge dans un restaurant le soir, elles habitaient dans un deux pièces avec les quatre grands-parents, avec leurs enfants, elles avaient un mari alcoolique, et malgré ça, c'était des monstres de puissance et de solidité, quoi. Et c'était fallait. Et en fait, moi, c'est ces femmes-là qui m'ont éduquée déjà, et à qui je pense en fait dans des moments de difficulté. Et j'ai vécu en Argentine dans un quartier extrêmement pauvre de Buenos Aires, et c'était pareil. C'était des femmes qui se font violer à 14 ans, qui n'ont pas le droit d'avorter, qui ont des enfants à la pelle, avec des pères qui se tirent au fur et à mesure, ou qui tombent dans des conditions différentes. Et en fait, c'est des femmes qui m'inspirent beaucoup, parce que voilà. Donc en fait, je voulais un personnage qui porte en puissance cette graine de vie là, et parce que j'ai l'impression, enfin quand je vois mes amis, ma famille, mes sœurs, j'ai l'impression qu'on a tout un peu ça, quoi. C'est qu'on avance, et puis et d'ailleurs les hommes aussi, hein, des gens qui vivent des expériences très dures et qui en fait, voilà. Mais sauf qu'à force, je trouve, d'essentialiser un petit peu les trajectoires, on finit par plaquer un peu des récits qui sont pas les récits que font les personnes eux-mêmes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu le roman de Jim de Pierrick Bailly, qui est un livre absolument, un roman magnifique que je recommande, sur le lien entre un beau-père et son beau-fils, enfin un homme et son beau-fils. Et lui, il parle vraiment de classes populaires dans le Jura, et il dit c'est pas un drame en fait d'être caissière à 40 ans. Enfin, il y a des femmes qui font ça toute leur vie, qui vont faire ça toute leur vie, et qui en fait, c'est nous qui plaquons sur elles des. Mais elles le vivent pas comme ça en fait. C'est leur travail. Elles sont parfois. Alors oui, les conditions de travail sont difficiles, mais elles peuvent trouver une manière de s'épanouir aussi dans un avec des collègues, avec un milieu, et elles n'ont pas forcément l'ambition de faire autre chose, parce que c'est déjà bien de faire ça. Et c'est nous souvent, voilà, qui plaquons ces discours.
Ah ben sans doute, en effet, hein, qu'il y a rien à faire. J'ai un peu jugé notre héroïne. Hein, je sais, voilà, c'était un peu un méchant travers. Mais
en bien ou en mal.
Je pense que ça a été bigou encore une fois, puisque la première partie du roman, en effet, il y a quelque chose d'assez superficiel en fait dans cette quête-là de l'argent pour des marques qui sont dépassées très rapidement en plus. Puisque ben d'une marque de basket à une autre, ça va vite d'une rentrée à l'autre. Là où en fait il y a quelque chose de cette puissance qui moi m'a rattrapée, c'est dans la façon dont elle a géré le problème avec sa famille, puisque la famille est présente. D'abord comme l'ennemi ultime et la mère ennemie ultime, le bruit des frères, la sœur jamais présente, qui crie tout le temps, etc. Le père évidemment absent dans cette narration-là. Mais petit à petit, en fait, ça filoute l'histoire, c'est-à-dire qu'on l'a de plus en plus et de plus en plus fort. Et moi, ce personnage de la mère, cette relation mère-fille, mais elle m'a fait pleurer mais tellement, parce qu'en fait, on la voit pas venir. Enfin, il y a quelque chose de très subtil dans la façon dont la mère s'impose à nous, et qui reste très discrète en plus. Parce que oui, on a c'est des moments difficiles qu'elle est en train de vivre, mais en vrai, c'est des petits instants de ta narration qui font qu'on comprend son endroit de détresse en fait, et que notre héroïne le voit, et qu'elle est peut-être la seule en fait à le voir. Et ça. Moi, ça m'a vraiment un peu coupé la chic, quoi, si on reste sur plein d'expressions comme ça d'un autre âge. Et donc, en effet, puisque notre héroïne va vivre quelque chose qu'on a tous et toutes presque vécu, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, pas du jugement sur celui-là, c'est la séparation de ses parents. Son père quitte sa mère. Et donc là, en fait, la responsabilité familiale, bah, elle va un peu tomber sur notre héroïne qui voit bien qu'elle est... Enfin, en tout cas, nous, à travers ses yeux, on a l'impression que c'est la seule à pouvoir gérer cette histoire, en fait. Mmh. Puisque la sœur est dans d'autres délires, ses petits frères bah, sont des petits frères, que le père n'est plus là et que la mère, c'est des paquets de mouchoirs et des paquets de mouchoirs et des paquets de mouchoirs. Et une télé, quand même, alors que c'était interdiction totale.
Et une cheminée.
C'est vrai. En fait, de l'avoir responsabilisée comme ça d'un coup, nous, ça nous sort de la première histoire d'une certaine manière. Enfin, même si on sent qu'elle est encore là, un peu moins présente, mais on est tout de suite concentré en fait sur ce rapport-là. Et enfin, c'est évidemment dans la construction adolescente, le rapport mère-fille, et pas que adolescente, hein, jeune adulte, adulte. Peut-être même jusqu'à vieille femme, hein. Je pense que c'est un des gros sujets quand on est une femme. Cet endroit-là, en fait, de narration, d'aller, en fait, créer ce rapport-là mère-fille, ça représentait quoi pour toi, en fait ? C'était... parce qu'en fait, la narration aurait pu tellement changer si ça avait été le rapport avec ses frères, avec sa sœur, avec son père. Mais ce rapport mère-fille dans la construction et dans tout le récit de la sexualité avant, dans tout le rapport à elle-même, enfin, c'est quand même un endroit hyper crucial, en fait, de sa construction, cet endroit-là.
Oui, absolument. Alors, je pense que ce qui est... Même si c'était pas calculé, au final, ça s'est fait comme ça. C'est qu'elle cherche à découvrir l'amour, elle a très envie d'être amoureuse, elle a très envie d'avoir un petit ami, et en même temps, elle assiste à la ruine du couple parental. Et donc, comme c'est aussi un moment, comme je disais, à l'adolescence, où vous prenez conscience des failles de vos parents, parfois c'est aussi l'âge où les familles peuvent exploser puisqu'on a un peu porté les enfants. Voilà. Alors moi, je suis vraiment favorable au divorce. Je trouve que c'est une excellente chose. Oui, bah, je trouve ça génial en fait que les gens puissent se séparer s'ils ont plus à être ensemble, qu'ils puissent recommencer leur vie avec d'autres personnes formidables qui vont rentrer dans la famille. Donc, je trouve pas que le divorce soit un drame en soi. Après, c'est la manière dont c'est mené, mais je trouve que c'est plutôt une chose hyper positive. Mais simplement, à ce moment-là, elle projette évidemment sur la vie de sa mère en se disant, mais moi, j'essaye de trouver un copain, mais en même temps, à quoi bon, puisque au final, ça va se passer comme ça, que mon type me quittera un jour pour une autre femme, et voilà. Donc, il y avait un parallèle en fait entre leurs deux expériences qui me paraissait intéressant. Et ensuite, bah, très simplement, quand j'ai commencé à écrire, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la sexualité, aussi parce que je pense que j'étais arrivée à un moment un peu stable de ma vie. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ça a été 15 ans de galère aussi Enfin voilà, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Et puis journalistiquement, je m'intéressais beaucoup aux sexualités au sens large. Donc vraiment, société et sexualité, enfin quelles étaient les interactions entre les deux, à plein de choses qui se jouaient, de la société qui se jouait dans des mondes de pratiques de sexuelles. Donc ça, c'était vraiment mon centre d'intérêt. Et puis, petit à petit, en fait, la famille, je pense que c'est un sujet qui a grandi avec moi aussi. Et puis, je pense qu'à 20 ans, toutes les filles se disent, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, par contre, je sais que je ne ferai pas la vie de ma mère. Pas de mariage, jamais je me marierai, jamais j'aurai des enfants. Enfin, voilà. Et en tout cas, moi, c'était quelque chose de très fort autour de moi aussi. Et ça, c'était vraiment une certitude. Et surtout, je me disais, mais la pauvre, quoi, elle a vraiment foiré sa vie, quoi, d'être toute seule, divorcée, avec plusieurs enfants, travailler à mi-temps pour pouvoir s'occuper des enfants, du coup, jamais pouvoir s'épanouir dans son travail. Et petit à petit, en fait, j'ai complètement changé de point de vue et je me suis dit, non, mais en fait, elle est héroïque. Parce que elle a mené tout ça de front, sans jamais abandonner, même concrètement, voilà. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à valoriser ça. Et je pense que c'est là que le personnage de la mère a pris plus d'importance, ouais.
Ben oui, et de la reconnaissance.
Oui.
Enfin, il y a vraiment ça qui arrive, et une certaine maturité, de ce fait, que l'on rencontre dans le personnage de la jeune fille. Alors, depuis tout à l'heure, je dis héroïne, jeune fille, etc. Mais parce qu'en fait, est-ce qu'on sait son nom, son prénom?
Ben, on sait son surnom, Tennessee.
Ah oui. Voilà.
Ça, c'est son pseudo, mais par contre, le prénom, non.
Oui, voilà. Je me dis, mais ça me dérangeait pas qu'il n'y ait pas de prénom d'une
non.
certaine manière. voilà. Mais c'est parce que j'essaye de trouver plein d'autres noms depuis tout à l'heure, mais.
Non, on connaît que son. Et ça, c'était important pour moi parce que c'est vraiment la construction de l'identité à l'adolescence. Mmh. Et puis. Et donc, il y avait cette chose où, en général, à l'adolescence, c'est vraiment quand on a envie de changer de prénom. Et qu'on disait son prénom. Pourquoi? Parce que c'est une manière assez simple. Vous donnez votre prénom et tout de suite les gens peuvent vous enfermer dans une. Je connais même pas ton prénom d'ailleurs.
Ah bah il va falloir le coup. C'est Soazic.
Ah voilà. Merci Soazic. Tout de suite voilà, c'est on a tout un monde qui se déploie, même ce qu'on projette nous-mêmes sur un certain prénom. Et du coup voilà, de pas le donner, c'était un petit peu lui laisser cette liberté de se construire en dehors de son prénom. Mmh. Voilà. Et puis. L'autre chose, c'était aussi ce que tu disais par rapport à la première partie du roman sur les marques où c'est superficiel. Moi, je crois pas que ce soit super. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas si superficiel puisque en fait, c'est la seule manière de se construire une identité puisque vous avez pas de liberté financière. Enfin, vous avez pas d'indépendance financière, pas de indépendance légale. Vous êtes mineur, vous pouvez rien faire. Enfin, vous dépendez de vos parents. Et en fait, la seule manière d'affirmer son identité, c'est par l'apparence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle rêve aussi d'être hôtesse de l'air ou avocate, en tout cas un métier avec un uniforme, puisque pour elle, tout passe par l'apparence extérieure. Et les marques, c'est vraiment, pour moi, c'est des paysages en fait. Et quand vous décrivez un garçon qui est habillé en chevignon ou en Sergio Tacchini, tout de suite, vous n'avez pas du tout le même personnage. Mmh. Et donc, en fait, moi, ça me permettait d'économiser beaucoup de descriptions psychologiques et juste en donnant, voilà, des éléments ou même ce qu'il mange. Enfin, vous allez au supermarché, vous vous mettez dans la caisse du supermarché, vous regardez le caddie de la personne qui est devant vous. Tout de suite, vous avez une idée de sa vie, un peu. Mmh. Donc, c'est aussi, c'était aussi une manière, voilà, de planter un décor et de montrer à quel monde elle essaye d'appartenir et à quel monde de quel monde elle vient aussi, puisque le fait qu'elle ait pas de goûter de marque chez elle, qui est un énorme traumatisme, ça prouve aussi quelles sont les valeurs de ses parents, les moyens financiers de ses parents. Et là, il s'agit plus de valeurs, en l'occurrence. Et puis, bah, c'est ce que je dis tout le temps. Je sais pas qui a jamais fait l'expérience de se retrouver dans une sortie scolaire avec une briquette de jus de pomme, alors que tout le monde a des canettes de coca ou de iced tea. Mais c'est une humiliation traumatisante. Et en fait, pour consoler cette humiliation, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Enfin, vous êtes prêt à aller voler dans un magasin. Vous êtes prêt. Enfin, là, en l'occurrence, ça prend d'autres proportions. Mais elle, cette humiliation-là, elle l'a subie. Elle a envie de ressembler à des gens qui portent des vêtements de marque, qui mangent des goûters de marque. Et pour pouvoir atteindre ce but, bah, tout le reste va passer au second plan.
Oui, c'est ça. Après, ça permet de, pour nous, de faire un voyage quand même assez intéressant hein, dans cette période des années fin 90, début 2000, hein, et de se questionner sur ah oui, donc si c'était ça, ce sac-là, moi c'était plutôt ce sac-ci, voilà, de faire les liens en fait avec sa propre adolescence quand on a eu la chance d'avoir son adolescence dans ces années-là.
Chance, je sais pas, c'est une chance, mais.
Mais si, il faut toujours se dire que de vivre avec. Craig David et son collier de barbe.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça,
non,
c'est
mais
vrai. Quand même, avec Elvis, c'était pas mal aussi. Hein, mais on fait avec ce qu'on a.
On fait avec ce qu'on a, mais ça marque.
Craig David, ça marque, ouais.
Ça marque énormément, mais tu parles de Buffy aussi. Il y a un petit passage. Alliance ethnique. Oui. Bon, là, c'est très musical ou en série, mais il y a plein de choses comme ça.
Je fais une petite parenthèse sur Alliance ethnique qui est très important pour moi parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté et j'en écoute encore de rap français. Et on parle beaucoup du sexisme dans le rap français qui existe. Mais moi, ça a vraiment été une formation littéraire pour moi, le hip-hop. Et Alliance ethnique, je parle de cette chanson qui s'appelle Respect et qui dit Respect the funk, Respect the ladies. Et c'est important parce que en fait, surtout dans l'âge d'or du rap français qui se situe entre jusqu'aux années 2000, il y avait ces valeurs-là en fait dans la musique qu'on écoutait. Et je parle aussi du morceau de Cher, Strong Enough. Les Spice Girls, qui étaient quand même un gros facteur de force. Mais particulièrement, je tenais à parler de cette chanson d'Alliance ethnique parce que c'est aussi représentatif pour moi de certaines valeurs qu'on a, pour la jeunesse de banlieue, de périurbaine, qui était vraiment très immergée dans ces musiques-là. Ça a vraiment été important pour nous et ça nous a transmis des valeurs, un peu comme la boxe. Je fais souvent la boxe, c'est pas que de la bagarre, quoi. C'est aussi des valeurs de respect et donc voilà. Donc c'était important pour moi de citer particulièrement ce morceau. J'aurais pu en citer d'autres. Mais voilà. Et à côté de ça, on a Axel Red, Restez femme. Magnifique éloge de l'emprise amoureuse et de la perversion.
Ah, mais on a donc, tout un panel, en fait, de possibilités hein, sur cette éducation musicale. Et d'ailleurs, petite aparté, on a fait une rencontre avec Bettina Guillot, qui est une des grandes spécialistes du rap français.
Ouais,
et on l'a croisée, bon, avec les Riot Girls et Mathilde Carton. Ouais. Mais ça nous a permis de discuter, en effet, avec elle du sexisme dans le rap et de se rendre compte en effet que l'endroit de discussion n'est pas aussi radical.
Oui, et d'ailleurs, ce qu'elle raconte dans son livre, qui est très intéressant, c'est que les trois plus grandes artistes de rap français sont des femmes qui échappent complètement au canon, aux injonctions faites aux femmes. C'est Cazet, femme antillaise, lesbienne, extrêmement engagée. Diams, qui n'a jamais eu un corps hégémonique. Et la troisième, j'ai un trou, mais ça va me revenir. Kenny Arcana.
Oui, voilà.
Donc c'est quand même des c'est aussi dire qu'il y a des figures de femmes qui émergent dans des milieux sur lesquels on plaque aussi beaucoup de
et après d'autres qui ont aussi joué la carte très vulgaire des choses et ou qui dans leurs paroles étaient aussi très sexualisées mais qui le faisaient exprès en fait c'était leur choix leurs engagements
mais qui se sexualisaient elles-mêmes
qui
ne sexualisaient pas d'autres personnes comme
Mais c'était hyper intéressant parce que et je le d'une anecdote à une autre j'avais redécouvert des chanteuses qui avaient sur des comment ça s'appelle les compiles les fameuses compiles parce que c'était l'époque des compiles
bien sûr
et c'était les rares moments où on pouvait avoir des enregistrements de femmes à l'époque des rappeuses Mais voilà, c'est tout ça, en fait. Grande Couronne, c'est nous remettre dans des discussions de ce qu'on écoutait à l'époque, ce qu'on portait, ce qu'on mangeait, comment on a pu aimer aussi, comment on était avec nos familles.
À côté de ça, je fais juste une parenthèse, il y a aussi d'autres figures de femmes, et Ophélie Winter est un personnage très important dans le livre, parce que, et ça c'est important aussi de le dire, je crois, à la fin des années 90, comme tu dis, il n'y avait pas d'éducation sexuelle, il n'y avait pas de... Enfin, et je trouve que on était dans une période un peu bâtarde en termes d'identification, parce qu'on avait compris que on serait pas obligé d'avoir les mêmes vies que nos mères, qu'on serait plus femme au foyer, qu'on serait peut-être un peu plus libre et indépendante, avec des perspectives un peu plus ouvertes. Mais il y avait pas encore toute cette banque de rôle modèle qu'on a constitué ces dernières années, avec, bah, je repense à Pénélope Bagieu, Les Culottés, Titu Lecoq, enfin toutes ces femmes qui nous aident aussi à remettre en valeur des parcours, et il y a des livres pour enfants maintenant, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Nous, on n'avait pas ça à l'époque, et les femmes, on avait Edith Cresson et Simone Veil d'un côté, mais elles n'étaient pas franchement accessibles comme repères, mais on avait surtout Ophélie Winter, 98, c'est Monica Lewinsky, Loana de Milan, enfin voilà, des femmes qui aujourd'hui sont littéralement démolies par les vies qu'on leur a imposées, quoi. Donc il y a aussi ça, hein, qui est très important, c'est que je trouve qu'on n'avait pas beaucoup de, et puis les magazines qu'on lisait, c'était pas des invitations à l'autonomie affective ou dans aucun point de vue, donc voilà.
Mais c'est pour ça que notre génération, donc des trentenaires, on est un peu à se révolutionner à cette époque, enfin là maintenant en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu, alors pour les plus chanceuses qui ont pu découvrir les féminismes ou les littératures plus variées dans leur vingtaine, ben, ça a été un peu plus rapide. Mais moi je sais qu'il a fallu attendre 30 ans pour que vraiment... mon monde soit révolutionné.
Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on est prise dans des contradictions aussi fortes. C'est-à-dire entre la théorie et ce qu'on passe nos journées à défendre et ce qui se passe parfois dans notre intimité ou chez nous. Et je pense que, bah voilà, là, on est dans un bel exemple de contradiction. C'est-à-dire que moi, je peux avoir des grandes idées toute la journée et arriver chez moi le soir et me retrouver dans des schémas domestiques qui sont pas du tout ceux que... Et en fait, bah oui, parce qu'en fait, on a grandi avec ça, ils font partie de nous. Alors, je sais pas, je faudrait demander aux nouvelles générations si c'est plus facile, mais... en tout cas, je trouve que, enfin voilà, on a une grosse culpabilité de pas toujours réussir à mettre en pratique les idées qu'on lit et qu'on entend, et parce que la pratique est différente. Et je sais pas si ça peut se résoudre un jour, mais en tout cas, je trouve important parfois d'être un petit peu plus tendre avec cette contradiction et d'accepter que on peut avoir un léger décalage entre la théorie et la pratique, quoi.
Oui, et puis ça prend du temps de se révolutionner. Un pas à la fois.
Et puis il faut trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Et puis, bah ouais,
oh là
non,
là
c'est
là
compliqué.
Là, on a encore du travail. Merci beaucoup, Salomé, pour cette super discussion.
Merci, Swazik, et merci à vous d'être là.
Ouais, je pense qu'on peut se faire des applaudissements. Merci.
Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Affranchie Podcast en compagnie de Salomé Kinner à l'occasion de la parution de son roman Grande Couronne aux éditions Christian Bourgois. L'Affranchie Podcast, c'est Swazik Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Avec L'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Hey, Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.